Salut à toutes et à tous, vous êtes bien à l'écoute des informations de Radio Zinzine et de Radio BAM depuis les studios de Radio BAM à Marseille. Un duo ce soir, donc moi-même, Pierre au micro et Damien.
Salut.
Juste en face. Et on reçoit un autre duo, mais celui-là de Mille Babord. Donc Pat.
Salut.
Salut.
Alors, juste avant de parler de Mille Babord, on va développer, bah, comme d'habitude, les éphémérides, l'agenda et quelques informations régionales, quelques brèves. Donc, vous n'hésitez pas, tous les deux, Manu ou Pat, si vous avez un commentaire à faire sur ce qu'on raconte, à intervenir dans l'émission. Et donc, après avoir parlé de Mille Babord, parce que Mille Babord, ça n'est pas qu'un site internet qui nous sert à faire nos agendas dans les infos et qui sert à beaucoup de gens à voir ce qui se passe. C'est plein d'autres choses aussi, et ça, ils nous en parleront tous les deux. Et bien, après, on ira faire un petit tour dans les Hautes-Alpes, puisqu'il y avait hier une présentation par réseau, par RTE, je vais y arriver, du futur chantier de THT dans la Haute-Vallée de la Durance, à savoir entre Gap et Briançon. En gros, pour vous la faire simple, ils veulent refaire tout le réseau. Et évidemment, il y a des gens qui ne sont pas d'accord et qui contestent ces travaux. Donc, je vous ferai un petit compte-rendu de tout ça. Et puis, on parlera de la préoccupation autour du train aussi dans le 05, puisque les dessertes ferroviaires sont largement remises en question année après année, et il y a des collectifs qui se mobilisent pour que le train continue à rouler dans ce coin-là. Damien vous parlera dans l'actualité nationale de la consommation de cannabis en hausse chez les jeunes, et puis si on a le temps, de quelques autres bonus. Et dans l'international, un gros dossier sur le nucléaire, puisque on commémore le triste anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl, et on parlera de l'Égypte avec la chasse aux frères musulmans qui continue. On passe aux éphémérides, Damien, justement, puisqu'on
Allez.
Parlait de Tchernobyl.
Alors on va attaquer d'abord par les éphémérides du 25 avril. Donc en 1859, c'était le début du percement du canal de Suez en Égypte. Plus tard, en 1905, c'était la naissance de la SFIO, la section française de l'Internationale ouvrière, au congrès du Globe de Paris. Un peu plus tard, en 1953, on découvrait l'ADN. Et d'ailleurs, le 25 avril est le DNA Day, le jour de l'ADN, puisque c'est aussi à cette date que s'est achevé le projet génome humain qui a consisté à séquencer en totalité l'ADN humain. En 1974, au Portugal, c'était la fameuse révolution des œillets, et la radio catholique, Radio Renascença, diffusait une chanson qui était le signal du départ de cette révolution, menée par des capitaines qui se sont soulevés contre la dictature de Salazar, qui durait depuis 48 ans. Et qui ont donc triomphé de ce régime sans tirer un seul coup de feu, même s'il y a eu quand même des morts, mais qui sont dus à la répression de la police de Salazar. Les révolutionnaires, eux, n'ont pas eu à tirer un seul coup de fusil et avaient mis des œillets dans leur canon, d'où le nom de cette révolution au Portugal. Et un anniversaire, en 1917, naissait Ella Fitzgerald, la fameuse chanteuse américaine. On passe au 26 avril, et on va passer directement en 1933, où était créée la Gestapo, le 26 avril 1933. Dans le même registre, quelques années plus tard, en 1937, c'était le bombardement de Guernica. Un jour de marché, la Légion Condor italo-allemande bombardait cette ville basque. Et c'était la première fois dans l'histoire qu'une population civile était ciblée par un bombardement de l'aviation.
On n'arrête pas le progrès.
Ouais, on n'arrête pas le progrès. Et
autre... Pablo Picasso a laissé un tableau célèbre.
Hein, ouais.
Pour témoigner de cette attaque.
Ouais, d'ailleurs, quand on lui demandait... il paraît que c'est une anecdote qu'un jour un officier allemand lui a dit... Vous êtes Picasso, c'est vous qui avez fait Guernica, enfin c'est vous qui avez peint Guernica. Et Picasso avait répondu non, c'est vous. Et alors on continue dans le registre du progrès. On commémore aujourd'hui la catastrophe de nucléaire de Tchernobyl qui a eu lieu dans la nuit du 25 au 26 avril 86. Alors évidemment, à l'époque, personne n'était au courant. C'était l'ignorance générale, puisque c'est quelques jours plus tard, par le biais de scientifiques suédois, qui ont découvert un taux de radioactivité plus important à l'extérieur de leur centrale qu'à l'intérieur, qui à partir de là, ont commencé à alerter l'opinion mondiale sur ce problème. C'était aussi donc le jour de cette catastrophe, le début d'une grande bataille qui a duré longtemps pour circonscrire l'incendie nucléaire à Tchernobyl, puisqu'il y a 800 000 hommes de l'ex-URSS qui ont été mobilisés pour lutter contre le feu nucléaire, ceux qu'on a appelés donc les liquidateurs, et dont des milliers ont été mortellement contaminés.
Ouais, ils se sont liquidés eux-mêmes au passage.
Au passage, en fait, voilà. Ouais. Et souvent, évidemment, sans avoir été averti le moins du monde des risques qu'ils encouraient.
Et sans protection, parfois.
Au départ, aussi. Sans aucune protection. Enfin, on n'avait jamais connu ça. C'était évidemment une improvisation totale.
Et à l'époque, il y a quelques personnes haut placées dans l'administration et en politique en France qui nous racontaient que non, mais vous inquiétez pas, le mur s'arrête à la frontière. Et parmi ces personnes-là, donc,
ouais,
lapsus, la frontière fait un mur pour le nuage, on pourrait dire ça comme ça. Évidemment, c'était une idiotie énorme. Et parmi ces personnes, il y en a un qui veut revenir à la présidence de la République en ce moment. Je pense que vous voyez de qui je veux parler.
Et donc voilà, à propos de cette catastrophe de Tchernobyl, du coup, je me suis dit qu'il était de bon ton aujourd'hui de faire un petit focus sur le nucléaire en France, mais pas qu'en France. Puisque dans l'actualité, ces temps-ci, il y a eu pas mal de problèmes qui ont été révélés, notamment sur l'EPR de Flamanville, mais pas que, puisque il n'y a pas que l'EPR en France, mais aussi parce que l'EPR est exporté, notamment en Finlande, en Chine et en Inde. Donc on en parlera de nouveau un petit peu plus tard. Plus réjouissant, un anniversaire. Donc le 26 avril 1564, c'était la naissance de William Shakespeare, que vous connaissez tous, donc le dramaturge et poète anglais, dont l'anglais, on appelle
la langue de Shakespeare.
Ouais. Voilà, c'est tout pour les éphémérides de ce 25 et 26 avril.
Alors tu peux nous donner peut-être maintenant les rendez-vous à venir à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône pour les quelques jours prochains.
Donc les rendez-vous de la semaine prochaine, dont la plupart sont tirés du site Mille Babord qu'on reçoit aujourd'hui. Donc on les remercie pour ce travail vraiment très utile pour les Marseillais et pour les militants.
Et au-delà de Marseille, parce qu'il n'y a pas que des rendez-vous marseillais qui sont
exact, recensés. Au-delà de Marseille, c'est vrai qu'on est un petit peu ethnocentré, comme on dirait ici à Marseille, je m'en excuse. Alors, premier rendez-vous demain à Marseille pour le coup, donc demain dimanche ou aujourd'hui si vous écoutez la rediff, rendez-vous tous à la rue d'Aubagne, ça va être très sympa, on va se mettre au vert en fait, on va fleurir le bas de la rue d'Aubagne. Comme ça a été fait d'ailleurs déjà dans la rue de l'Arc ou dans la rue Sénac, petit à petit ça commence à se faire en ville. Donc c'est l'occasion aussi d'une fête. Il y aura une fanfare, il y aura de la musique, il y aura des réjouissances toute la journée. Ça commence à partir de 13h avec un repas partagé sur la place Homer. Ensuite il y aura des projections et des animations de 14 à 17h. C'est le moment aussi où on sortira les plantes et où on les mettra dans les bacs qui ont été construits par les habitants lors d'ateliers. Il faut d'ailleurs souligner le travail de trois associations qui ont mené ce projet. Les Petits Débrouillards, Urban Prod et Art Up 13, qui sont je crois la même association, et une autre association qui s'appelle Destination Familiale.
Et sans oublier Darlamifa aussi.
Et alors le Darlamifa qui s'associe au projet, une petite précision de Manu de Mille Babord.
C'est juste Je crois que tu parles en fait pas de tu parles de destination famille.
Destination oui. famille, ouais.
J'ai été bénévole là-bas pendant 9 ans, je me suis arrêté il y a pas longtemps.
OK.
Et ils ont encore un site et voilà, soutien scolaire, tout ça, alphabétisation.
C'est une asso qui s'investit beaucoup dans le quartier, ouais.
Voilà, ça continue, ça change, c'est plus pareil, il y a moins d'aide aux devoirs, il y a plus de choses au niveau informatique. C'est un grand local, tout neuf, à côté du Dakiling. Voilà.
Ok, donc rue d'Aubagne aussi.
Voilà.
Ouais. Donc voilà, donc rendez-vous donc à la rue d'Aubagne tout l'après-midi et ça se finira le soir au Dar La Mifa, effectivement, avec un concert pour clôturer cette journée. Et tout ce projet, évidemment, dans le but de construire du lien social, d'améliorer le cadre de vie. Et voilà, c'est une belle façon de se réapproprier l'espace public. Prochain rendez-vous, donc lundi 27 avril, à Aix. C'est l'Université populaire du pays d'Aix, sciences politiques et géopolitiques, qui organise ça avec Myriam Benrad. Et c'est donc sur l'Irak, le Moyen-Orient et les attentats qui sont survenus en France, sur le thème comment s'est construite la genèse de ce qui se vit là-bas et ici. Donc mettre en lien les attentats et les problèmes de terrorisme qu'on a ici avec les conflits au Moyen-Orient. Donc ça, c'était effectivement sur le site de Mille Babord. Et d'ailleurs, sur ce site, vous pouvez trouver un lien avec des vidéos de conférences qu'a déjà donné Myriam Benrad, si ça vous intéresse, pour vous documenter avant la rencontre. Le mardi 2, au Théâtre de la Mer, il y aura aussi une rencontre débat avec Sarah Casella sur le thème « Les réfugiés de la Méditerranée, quelles actions et quelle solidarité ?» Donc c'est mardi à 18h30 au Théâtre de la Mer. L'adresse, c'est 53 rue de la Joliette.
Et c'est organisé par Approche Culture et Territoire.
Belle précision. Approche Culture et Territoire, ouais. Et Sarah Casella est membre du réseau Migre Europe.
Et il y aura des gens de la CIMAD qui interviendront aussi au cours de cette soirée.
Prochain rendez-vous, mercredi, donc le 29 avril. Sur le thème « J'avais 20 ans dans la guerre d'Algérie », c'est donc une rencontre avec Bernard Dravet, auteur d'un témoignage, puisqu'il était appelé lors de la guerre d'Algérie et que lui refusait la torture, et donc raconte les brimades dont il a été l'objet, etc. Ça se passe à la librairie Transit, au 45 boulevard de la Libération, mercredi à partir de 19h.
Moi, je connais bien, c'est rigolo, Bernard Dravet, et je conseille vivement cette conférence, d'ailleurs, dans ce lieu. Très, très bien, Transit.
Eh bien, on espère vous y retrouver.
Ben, merci, j'apprécie. tu parlais à...
Oui, à toi et en général aux auditeurs. Voilà. Jeudi, donc le 30 avril, à partir de 18h30, une projection débat... sur le thème, enfin le titre du film, c'est La fête est finie. Et c'est un film de Nicolas Burlot et ça parle de, on va dire, de gentrification, c'est-à-dire de toutes les politiques d'aménagement et de la façon dont Marseille est en train de changer d'une façon qui peut plaire à certains et beaucoup moins à d'autres, notamment à ses habitants historiques, disons, dirons-nous. Et donc ça va se passer. À la Busserine, au centre social de l'Agora, donc 34 rue de la Busserine, dans le 14e, à Marseille, et c'est donc jeudi 30 avril, à partir de 18h30. Et dernier rendez-vous, que vous entendrez sûrement plusieurs fois à cette antenne, samedi, n'oubliez pas, c'est la journée porte ouverte.
Le 9, hein.
Ouais, samedi 9 prochain. C'est dans deux
dans
semaines.
Dans 15 jours.
C'est dans 15
c'est
jours.
Dans 15 jours. Donc samedi 9 mai, journée porte ouverte à Radio Zinzine.
Et ça vous sera rappelé Ouais. Régulièrement à cette antenne.
Ouais, donc ça se passe sur la colline Zinzine du côté de Fort Calquier. À partir de 10h, venez avec votre pique-nique. On espère qu'il fera beau, qu'il y aura un franc soleil. Et là, on n'a pas prévu de programme particulier. C'est juste l'occasion de se rencontrer, de vous faire visiter le studio, de éventuellement intervenir à l'improviste sur l'antenne. Nous, Marseillais, on sera présents aussi avec quelques-uns de l'équipe et on animera notamment les infos à 19h. Donc ce sera pas en direct de Marseille ce coup-ci, ce sera en direct de la colline Zinzine, les Marseillais à la campagne. Ça va nous faire tout drôle, je crois. Mais ça va nous faire du bien aussi.
Ça peut-être. Sera une émission de radio-réalité, tu crois?
On pourrait proposer le concept. Moi, je voulais vous donner quelques rendez-vous pour le 1er mai, mais quelques rendez-vous originaux. Hein. On va se garder de faire la liste de tous les défilés qu'il y aura pour cette fête des travailleurs. Le premier rendez-vous qu'on adore ici à Marseille et on a plaisir à s'y retrouver chaque année, c'est la Sardinade de la Plaine, Sardinade du 1er mai, où là c'est encore un événement de réappropriation de l'espace public. On s'installe sur l'espace public, on mange des sardines ensemble qui sont grillées, on écoute de la musique, on danse un petit peu, on boit des coups. Voilà, c'est toujours très sympa. Un autre rendez-vous, toujours le 1er mai, qui aura lieu à Digne-les-Bains. Donc c'est une soirée festive autour du journal La Canarde Sauvage, tout nouveau journal qui vient de sortir. C'est qui, je ne sais plus à combien on est de numéro, mais il me semble qu'on doit être au 4e maintenant. L'idée c'est de se rencontrer, de discuter du journal, discuter comment on peut y intervenir à l'intérieur. Et de discuter autour des luttes locales et des ZAD en France. C'est à Digne-les-Bains, au bar Le Millésime, à 18h. Et cette rencontre est intitulée « Vive le 1er mai de la paresse ». Il semblerait qu'il y ait une petite critique du travail derrière tout ça, mais j'en suis pas bien sûr. Un autre rendez-vous qui aura lieu partout en France, mais je peux pas tellement vous donner de précision parce que c'est un rendez-vous un peu mystère. Donc c'est une action intitulée Bonne nuit les petits. C'est organisé par le collectif Zero Watt. Donc pour éteindre, là le collectif invite à éteindre les panneaux publicitaires dans la ville. Donc si jamais vous voulez vous mettre en contact avec eux, il faut aller voir sur internet, voir s'il se passe quelque chose dans votre ville à ce propos, voir si vous pouvez proposer à ce collectif d'organiser quelque chose dans votre ville. Le site c'est 0-watt.com. Net. Et juste pour rappel, le collectif nous rappelle que la publicité ça nuit aussi au réchauffement climatique. Il paraît que ça va être un thème très important à la fin de l'année, puisque une famille de 4 personnes consomme en moyenne 8,5 kW par heure. Ce qu'on appelle une sucette, c'est les petits panneaux publicitaires, ça consomme 5,5 kW par heure. Un grand panneau 4x3, ça consomme 16,7 kW par heure, donc presque le double d'une famille de 4 personnes. Et enfin, pour finir, un écran LED de 8 mètres carrés, 60 kW par heure. Voilà, donc peut-être qu'à un moment donné, il serait temps de changer de modèle, mais ce sera un peu le leitmotiv, je crois, de ces infos. On passe un brin de musique, on revient avec les actualités régionales et on en profite pour saluer notre camarade Antonin à la technique. Merci à lui. Et vous êtes bien à l'écoute des informations de Radio Zinzine et de Radio BAM depuis les studios de Radio BAM à Marseille. Tu voulais nous parler donc de notre cher candidat UMP au régional, Damien et Christian Estrosi, rebaptisé par le canard enchaîné cette semaine, Chris de Nice.
Ouais, le canard enchaîné a décidément beaucoup d'humour et nous présente cette semaine notre candidat UMP pour les régionales de décembre qui arrive à grands pas. Et donc ouais, Chris de Nice, le sympathique Chris de Nice. Alors petit les bons mots un petit peu de cet article. Alors d'abord, le canard rappelle que c'est un vrai cumulard pour le coup, Christian Estrosi, puisque il est donc maire de Nice. Il est aussi député, il est président de la métropole Nice-Côte d'Azur, président du syndicat mixte des transports des Alpes-Maritimes, président du syndicat mixte des stations du Mercantour, président du comité départemental de l'UMP, vice-président de l'association des maires de France, etc., 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 on va pas tout citer. Donc, cumulard, de droite, ça c'est sûr. La question, c'est, vu que la candidate en face de lui va être Marion Maréchal-Le Pen, la question qui va se poser...
Sans oublier Christophe Castaner, et il y en aura d'autres évidemment, des candidats.
Ouais,
Christophe Castaner, le maire de Fort-Calquier.
Ah oui, le maire de Fort-Calquier. Ouais. Mais à droite, c'est vrai que la concurrence va être très rude et ça va être difficile de se démarquer. Le canard rappelle qu'en 2012, en terminant une marche de pieds noirs et de harkis, Christian Estrosi avait clamé « Vive l'Algérie française ». Donc, bon, on verra comment on peut se démarquer du Front National. En tout cas, sa formule à lui, c'est « je ne vais pas combattre sur le terrain du Front National, mais je vais combattre le Front National sur le terrain ».
Oui, c'est un sarkozyste convaincu, ce garçon.
Oui, 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 très, très ami de Sarkozy, qui d'ailleurs n'est peut-être pas étranger à sa nomination en tant que candidat. Mmh. Alors rappelons aussi que, entre autres mesures sécuritaires à Nice, on peut compter évidemment le nombre de caméras qui se sont installées à Nice, mais aussi l'interdiction des drapeaux étrangers les soirs de match. Ça l'horripilait de voir des drapeaux, en plus pas français, lors des soirs de Coupe du Monde. C'était vraiment...
Surtout algérien, j'imagine.
Insupportable.
Ça devait le gratter, ça devait lui faire de l'eczéma, non ?
Oui, parce que pour lui, le drapeau d'Algérie, il est bleu, blanc et rouge,
ah
sans
oui,
doute.
C'est vrai. Mais t'es sûr qu'il voulait pas paraphraser Geneviève de Fontenay quand il a dit « Vive l'Algérie française », qui, elle, pour le coup, a dit ça en Algérie. ça a suscité un tollé à l'époque. Enfin, c'était l'année dernière d'ailleurs, c'était il n'y a pas si longtemps que ça.
Je sais pas.
Bon, c'était juste pour la blague.
En tout cas, voilà, c'était petite présentation de Christian Estrosi. Donc, merci au canard enchaîné encore une fois.
Tu voulais nous parler de quelques autres sujets marseillais, Damien, et on revient avec cette histoire de navette maritime.
Oui, alors c'était le premier jour d'activité là pour les navettes maritimes qui sont donc remises en place. L'une du Vieux-Port à la Pointe-Rouge, l'autre du Vieux-Port à l'Estac. Et prochainement, on avait eu la discussion la semaine dernière à ce micro, prochainement une autre navette qui reliera la Pointe-Rouge au Goude. Ça a été décidé politiquement, mais d'une décision politique à la réalisation dans les faits d'un tel projet, il y a de la marge. Et donc il va falloir du temps parce que le port des Goudes n'est pas encore équipé pour recevoir les bateaux, même si ça sera un bateau de plus petite taille et de plus petite capacité que les autres navettes. Et l'organisation des marins et de la mise en, enfin la préparation du bateau prend aussi du temps, sans compter qu'il y a une question aussi d'autorisation du parc national des Calanques, puisque les Goudes est dans le secteur du parc national des Calanques. C'est ce qui devrait poser le moins de problèmes, d'obtenir cette autorisation.
Oui, parce que de l'autre côté, vraisemblablement, ça fera moins de voitures.
Exactement. C'est d'ailleurs tout l'enjeu, c'est de désengorger un petit peu l'unique route qui relie l'extrémité sud de Marseille à la Pointe-Rouge.
Tu voulais nous parler aussi, Damien, de la police municipale de Marseille qui est prête à prendre les armes.
Ouais, alors ça a été décidé. Le conseil municipal a décidé donc d'armer progressivement les policiers municipaux. Donc les 420 policiers municipaux seront dotés de revolvers à partir de début 2016. Donc cette fois-ci, après l'arrivée des tasers et des flashballs en 2013, cette fois-ci, c'est bien d'armes létales qu'il s'agit. Alors pour Marseille, c'est beaucoup lié à tous ces faits divers qu'on entend sur la criminalité et les règlements de compte, donc avec effectivement des armes létales qui sont utilisées par les délinquants à Marseille. Il faut savoir que, pour le coup, la mairie n'achètera aucun revolver, puisque les pistolets seront offerts par l'État central. Ça, c'était une sorte de cadeau de Bernard Cazeneuve qui avait été fait au lendemain des attentats de Paris, lorsque 17 personnes avaient été tuées, dont deux policiers et une policière municipale qui était désarmée. Et donc pour rassurer les policiers municipaux très, très remontés, Bernard Cazeneuve avait offert d'équiper, pas gratuitement pour l'État, mais en tout cas pour les municipalités, d'équiper donc gratuitement pour les municipalités d'armes létales les policiers si les maires en faisaient la demande. C'est chose faite à Marseille. Et donc ça arrivera début 2016. Et pour vous rassurer un petit peu, les policiers seront quand même formés, puisqu'ils recevront 45 heures de formation et seront formés à Halo sur un stand de tir. Voilà, la police à Marseille, ça rigolera plus du tout là.
Ouais, Pat, tu veux ajouter un mot ?
Juste pour commenter sur donc les armes de la police qui sont déjà armées donc de flashball et de LBD et qui sont apparemment déjà formées, et on peut déjà voir de nombreux blessés et mutilés de la police. Maintenant c'est des armes létales, donc on va peut-être se poser des questions. Donc d'ici 2016, il reste peut-être un peu de temps pour.
Oui, puis au-delà de ça, il y a une forme de banalisation de la violence, quoi. On met des armes entre les mains des municipaux, on met des militaires dans les rues, dans les gares, etc. Comme si la violence, c'était normal. C'est un truc du quotidien, c'est normal. Voilà.
Ouais. Et puis quand on raisonne par mimétisme comme ça, c'est un petit peu le jeu du plus con. Mm. Étant donné que les délinquants sont armés, donc il faut que la police municipale soit armée, mais étant donné qu'ils ont des kalachnikovs, pourquoi ne pas donner des kalachnikovs à la police municipale ?
On peut faire comme aux États-Unis, hein, ça peut être une bonne idée, où du matériel de réforme militaire sert dans la police. Donc ça, peut-être qu'on y arrivera un jour en France, on verra. Dans le sens du progrès, c'est vrai que imiter les Américains, on est plutôt assez fort, souvent, pas toujours heureusement, mais souvent on est assez fort. Bon, on va passer un brin de musique.
Et puis on se retrouve avec nos invités de 2000 Babord.
Ouais, avec quelque chose d'un peu plus réjouissant.
Ouais, nettement plus réjouissant.
De l'action, quoi. Alors, on reçoit dans ces informations des voisins, parce que finalement, ils sont juste à côté, à la rue Consola. Et nous, on vous parle ici depuis la rue d'Anvers. Donc, on est dans le quartier Consola, Longchamp, un petit peu par là, à Marseille. C'est un plaisir de vous recevoir déjà, tous les deux.
C'est un Mali. Plaisir à vous de nous avoir invités.
donc, Pat et Manu. Donc vous investissez dans Mille Babord. Alors Mille Babord, comme je le disais un peu en préambule, ça n'est pas juste un site internet qui annonce des événements, c'est aussi plein d'autres choses. Alors est-ce que vous pouvez nous en faire une présentation pour commencer?
Oui, on va faire une petite présentation assez rapide. Donc Mille Babord, déjà c'est une association qui est donc de type, on va dire, collégial. Donc il n'y a pas de schéma classique d'associations, président, trésorier, etc. Mm-hmm. Donc c'est là actuellement le CA de Mille Babord, on est 6 personnes, plus membres actifs, etc. Donc l'activité de Mille Babord. Déjà Mille Babord, c'est plein de choses. Déjà c'est un projet donc de gestion collective en fait, d'un lieu, d'un site internet, et tout ceci. Dans le projet, c'est que ce soit géré collectivement par les acteurs en fait, des mouvements sociaux locaux.
En fait, on pourrait dire que c'est un espace ressource, un peu.
Un peu.
Pour les acteurs des mouvements sociaux.
C'est un projet, c'est un projet quand même qui a beaucoup évolué, parce que ça fait quand même 15 ans que ça existe, Mille Babord. Mais dans l'idée, donc, c'est donc une gestion, on va dire, collective, donc, des outils de Mille Babord, que sont donc un local, un lieu... Et aussi un lieu donc d'échange, de débat. Voilà.
Donc qu'est-ce que vous y faites comme activité dans ce local?
Des activités, c'est-à-dire?
À quoi il sert ce local? À quoi il sert, tout simplement?
Oui, donc il est loué pour des débats. Il est loué pour des débats ou des conférences. Les activités, donc il y a des associations qui sont domiciliées là-bas, donc qui peuvent aussi se réunir de manière, pas publique. Voilà, ils ferment, enfin, pour eux, et parfois c'est aussi des choses.
Oui, voilà. Puis d'un point de vue administratif, c'est utile d'être domicilié quelque part pour une association aussi. Vous rendez service là aussi.
On est ravis d'aider toutes ces associations, une trentaine.
En fait, non, il y a une trentaine d'associations qui sont donc adhérentes à Mille Babord, et dont une dizaine, on va dire, qui sont domiciliées et qui ont leur siège donc à Mille Babord. Ouais.
Je m'étais trompé, voilà. En fait, il n'y a qu'une dizaine qui sont domiciliées là-bas. Bon, il y a un peu aussi, on prête les ordinateurs, on en a deux.
On peut dire voilà, que c'est un espace ressource, quoi, hein, quelque part, pour ces associations. J'imagine que Mille Babord, ça vient pas de nulle part, que le nom il veut dire quelque chose aussi.
Le nom de Mille Babord, il se réfère déjà au concept, on va dire, de Mille Gauche. Et donc ce terme qui pose un peu débat actuellement. Mais donc au Mille Gauche, donc il y a bien quand même on va dire un peu des bornes qui sont posées, quoi. Je veux dire, pas n'importe qui peut venir à Mille Babord. Donc c'est surtout, donc on va dire, ouvert à tout ce qui est lutte anticapitaliste, les mouvements ouvriers, les syndicats, par exemple la CNT, donc qui héberge à Mille Babord, et ça va vraiment des mouvements qui sont, enfin, réformistes, type socialisme, jusqu'aux mouvements révolutionnaires, anarchistes, marxistes. Ça héberge vraiment tout un panel de on va dire de mouvements, quoi.
Est-ce que justement tu pourrais citer quelques organisations qui se réunissent chez vous, qui viennent chez vous, qui sont adhérentes, je sais pas?
Oui, bien sûr. Pour montrer un peu l'éventail d'associations, donc là, adhérentes, donc comme on l'a dit tout à l'heure, il y en a une trentaine. Donc on peut citer donc 360 degrés, qui est plutôt dans le domaine du cinéma. Donc là, CNT, j'en ai parlé tout à l'heure, pour ce qui est un syndicat. Après, il y a des assos comme Alarme, qui est une asso pour la libération animale. Après, il y a
RESF.
RESF, bien sûr.
Ouais, Réseau éducation sans frontières.
Ensuite, est-ce que les Amis de la Terre sont encore... Non, ils ne sont plus adhérents.
Il y en a beaucoup, mais du coup...
En tout cas, c'est une liste qu'on peut...
Il y a vraiment une liste assez longue qu'on peut consulter sur le site aussi. Quoi.
Alors justement, puisque tu parles du site, Pat, qu'est-ce qu'on y trouve sur votre site ?
Mais sur le site, déjà, donc c'est... Donc comme on l'a dit tout à l'heure, c'est dans l'idéal, c'est une gestion aussi, c'est un outil à gestion, on va dire, collective. Donc toute personne peut devenir rédacteur ou rédactrice donc, sur Mivabor. C'est un peu comme le concept des indie media, on va dire. Tout le monde peut rédiger son article et publier aussi dans l'agenda de Mivabor. Donc est-ce que le site, donc, c'est des publications d'articles donc de ces différents mouvements, qu'ils soient adhérents ou non à Mivabor, mais qui ont une pertinence donc, pour l'association. Et aussi donc la mise en ligne donc d'un agenda régulier sur les événements locaux, régionaux, on va dire, militants. Voilà. Et donc un site.
Tu peux donner l'adresse.
Qui marche.
Ah, je sais. Ah non, c'est pas ça. Non, je croyais que c'était ça. Excuse-moi, vas-y. Je t'en prie.
Non, c'était pour dire que c'est un site qui marche très très bien. C'est un peu un des points forts, on va dire, de Mivabor. Il y a une moyenne de quand même 3000 visites par jour. Et donc on invite vraiment les associations collectives à publier parce qu'on pense qu'il y a vraiment un intérêt.
Et quand tu dis n'importe qui, enfin pas n'importe qui, tout le monde peut publier sur Mivabor, j'imagine qu'il faut connaître un peu. Enfin, comment ça se passe en fait ? Comment vous autorisez quelqu'un à publier, que ce soit une association ou quelqu'un en particulier ?
Donc par exemple, une association ou une personne individuelle veut publier sur Mivabor. Elle va donc se connecter et s'inscrire avec une adresse mail donc en tant que rédacteur, rédactrice, qui est ensuite validée. Et quand elle va donc vouloir... elle va créer donc son article, qui va être donc enregistré. Mais derrière, il y a quand même une équipe qui va... l'article n'apparaît pas tout de suite.
Oui, vous avez une modération.
Il y a une modération donc, qui se fait. Donc c'est pour ça qu'on va dire on va pas se retrouver avec des articles de génération identitaire, par exemple. c'est dans ce cadre-là, quoi.
Est-ce que vous avez une actualité prochaine à venir
Oui, alors comment...
De Mivabor, c'est ça.
De Mivabor, oui,
bien sûr. En fait, là, on vient de se faire, il n'y a pas très longtemps, donc une grande AG où on a posé donc, un peu le sujet de la pertinence du projet de Mivabor, parce qu'on avait quand même pas mal de difficultés à maintenir... l'association, et on l'a posé en AG assez récemment.
Alors donc, de quel point de vue vous avez des difficultés financières ou l'investissement des gens ou...
C'est pas tellement au niveau financier, bien que on a toujours besoin
de soutien,
mais c'est plus vraiment au niveau de l'investissement, parce que ça demande un investissement régulier et assez conséquent, et on se retrouvait avec une équipe assez réduite de moins de 10 personnes. Donc, pour donner un exemple, la personne il y avait une personne qui gérait par exemple l'agenda et donc l'envoi de la newsletter depuis très longtemps, et par exemple, donc du coup une fatigue un peu de l'équipe et un projet collectif qui a un peu du mal à être vraiment collectif, où les associations collectives n'ont peut-être pas conscience et laissent un peu. Enfin, il y a un peu Mivabor et les associations, et ce qui n'est pas le projet de Mivabor. En fait, les associations et collectifs devraient faire tourner Mivabor, en fait. Oui. Pas une équipe.
Faut pas oublier que si l'outil existe, c'est parce qu'il y a des gens qui s'y investissent dedans. Oui. C'est un peu ce que tu veux dire, j'imagine.
Ah oui, bien sûr. Il y a des gens qui s'investissent, bien sûr. Mais après, ce qu'on a posé...
Faire passer ce message aux associations qui profitent de vos services, quoi.
Voilà, mais on veut pas être.
C'est ça, le problème.
On comprend que certaines, peut-être que certaines associations ne peuvent pas. Mm-hmm. Elles sont, par exemple, parce qu'elles sont très actives, elles ne peuvent peut-être pas, aider ou participer plus. Mais il y a la question de l'argent. S'il faut qu'ils donnent 60€ par an, les associations, et parfois ils ne le font pas, et on a l'impression que 60€, ce n'est pas non plus énorme. Alors on est étonné, parfois. Bon.
Et puis, si je vous entends bien, j'ai l'impression que votre idée, c'est pas que vous soyez des simples prestataires de services.
Justement, pas du tout. Ouais. Justement, pas du tout, quoi. C'est bien ça le truc, c'est que Mivabor devrait. Enfin, c'est un peu le sentiment qu'on avait, c'est qu'au final, on est vraiment, on était, enfin, un peu prestataires et après on a des retours par exemple quand on gère le site par exemple d'organisations qui font ah, mais vous n'avez pas publié ça alors que voilà c'est pas à nous dans le projet de Mibabor c'est pas à nous d'aller chercher les infos, tout le monde peut participer et publier. Enfin, c'est, y a, toutes ces infos, on peut les retrouver donc sur le site. Tout ce qui est un peu donc les réflexions qu'on a posées suite à ça, c'est assez détaillé. Et là, on va normalement très bientôt publier donc un peu une synthèse de cet AG pour donner un peu d'aperçu qui a été où vraiment les gens ont dit en gros que c'était pas possible que Mibabor s'arrête parce qu'il y avait vraiment un intérêt.
Ah, parce que vous en étiez poser cette question.
Là, on a posé.
D'accord.
C'était s'il n'y a pas un comment on peut dire
un regain
une gestion collective, un regain d'intérêt et d'activité en l'état où on était avant, on continuait pas, on peut pas quoi. On pouvait pas.
Et donc la réponse de l'Assemblée Générale, est-ce que tu peux nous la donner?
C'était vraiment non, que Mibabor ne peut pas s'arrêter parce qu'il y a vraiment un intérêt que ce soit au niveau du local parce qu'on n'a pas trop parlé de la médiathèque. Mm-hmm. Parce qu'on fait, y a aussi une médiathèque de plus de 3000 ouvrages vraiment et encore je pense qu'on peut augmenter ce chiffre, c'est juste qu'on n'a pas assez d'étagères pour les mettre. Mais en gros les associations, collectifs, etc. ont dit que ça pouvait pas s'arrêter et maintenant on est un peu en état de réflexion. Il y a pas mal de propositions qui ont été faites, de nouvelles personnes qui sont entrées au CA de Mibabor. Donc voilà, là on demande à voir sur la durée, donc parce que ce qu'on disait tout à l'heure, c'était un investissement assez constant et régulier quoi. On peut pas venir à Mibabor gérer Mibabor un jour comme ça, voilà.
Et ça doit être très intéressant dans vos réunions de voir toute c'est une richesse d'avoir toute cette diversité d'organisation, ouais. de bords différents. Mais est-ce que parfois ça arrive aussi qu'il y ait des accords importants?
Un petit peu, mais
s'il y a des désaccords, tu veux dire dans quel sens?
Peut-être. Alors là, on parlait de désaccords.
Tu veux dire au sein de l'équipe ou plus généralement aux événements qui se passent?
Ouais, je pensais à des c'est des différentes forces qu'on accuse souvent de trop peu souvent se retrouver, et c'est exactement ce que fait Mibabor en fait, de réunir les différentes gauches. Et est-ce que parfois on vient et puis on s'écharpe un petit peu, est-ce qu'il y a des conflits parfois entre les différentes assos qui gravitent autour de ce lieu quoi?
C'est un peu, ça fait un peu partie entre guillemets du projet de Mibabor, c'est qu'il y a vraiment cette zone d'échanges, voire même de confrontation d'idées, etc. Et je pense que c'est un des rares lieux, je pense, à Marseille où on peut croiser des personnes qui ont des idées plutôt réformistes dans une même soirée et voir des personnes plus révolutionnaires, anarchistes au sein d'un même lieu. Et on a pu voir au sein de... Je ne me rappelle plus, j'ai pas une soirée en tête, mais... je crois que c'était sur la Syrie par exemple où des idées se confrontent un peu quoi. Donc c'est un peu ça aussi Mibabor, c'est un peu un lieu où justement on vient un peu avec des idées différentes, et c'est ça qu'on aimerait voir, mais plus, un peu plus quoi. Ouais. Mais ça arrive.
Donc finalement il y a aussi un vrai rôle de citoyenneté en fait quoi,
trop
de débat quoi.
Non, t'aimes pas ce mot citoyenneté?
Pas trop.
Pourquoi?
C'est pas vraiment ça, c'est plus, c'est quand même plus, je dirais plus populaire, Mibabor, que citoyen, quoi. Parce que citoyen, c'est vraiment, un citoyen, c'est, donc il se définit par rapport à l'État. Une personne citoyenne, donc il reconnaît l'État, et à Mibabor, du moins on est plus dans, c'est plus un champ quand même.
En tout cas, on pourrait dire un rôle d'agitateur de la vie et du débat politique.
Oui, bien sûr.
Déjà.
Bien sûr.
Et du fait qu'il y ait des rencontres entre ces différentes associations et autres syndicats de gauche avec sûrement des points de vue différents, ça c'est aussi intéressant que tout ça se croise et se mélange et puisse communiquer finalement.
On dit que...
Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais...
s'appelle le portail des luttes aussi, Mibabor.
Après, qui est là où on voit que ça, des fois ça marche plutôt, c'est par exemple, ça peut paraître anodin, mais sur l'agenda qu'il y ait des organisations qui entre guillemets acceptent d'être publiées à côté d'une autre, c'est quand même pas rien d'avoir des soirées qui se passent dans des squats à côté de je sais pas, un rassemblement plutôt citoyen ou avec des organisations plutôt réformistes, c'est quand même ça se croise un peu quoi, voilà.
Bon,
et non, je sais plus.
Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Mille Bâbords pour la suite?
Que le site continue aussi à bien marcher, que les gens partagent sur internet les articles encore plus, voilà. Et
qu'il y ait des personnes qui, si elles le souhaitent, peuvent s'impliquer plus dans Mille Bâbords, qu'elles soient ou non d'une association, qu'elles puissent aussi publier elles-mêmes en fait individuellement ou de leur collectif sur Mille Bâbords, donc c'est et non pas attendre que Mille Bâbords traite leur demande. Et ça, pour ça, je veux dire qu'il y a une réunion qui est tous les jeudis soirs à 19h30, qui est ouverte, c'est la réunion de coordination donc de Mille Bâbords, où tout le monde peut venir et discuter, soumettre un projet, une idée, venir participer. On en a fait justement en début de semaine, des petites formations justement pour les personnes qui veulent apprendre plus comment publier, donc sur le site par exemple.
Mm-hmm. Il y avait aussi la formation un peu plus pour la bibliothèque, et voilà, il y avait 3 formations là, voilà, parce que voilà, il faut aussi apprendre à... Il y a une journothèque, une bibliothèque, il faut
quand même, ça se gère quoi, voilà, tout ça.
C'était bien qu'après.
Ouais, ça s'organise.
Si ça gère collectivement, c'est encore mieux. Et c'est ça que voilà, on a essayé de reposer vraiment la gestion collective quoi. C'est vraiment un gros point quoi.
Et si on peut pas venir à ces réunions là, on peut vous contacter, j'imagine.
On peut contacter donc sur via le site internet, donc mibabor.org. Après, il y a sur le site, donc vous pouvez trouver un numéro de téléphone aussi du local, et il y a les permanences aussi donc du local dont Manu les fait assez régulièrement, qui sont le lundi et le jeudi.
Ouais, donc, voilà, je suis là le lundi et le jeudi. Et il y a aussi une commission bibliothèque qui se réunit parfois, qui reprend un petit peu, qui est le jeudi aussi à 6h, de 6h jusqu'à 7h30. Et voilà, il y a une équipe du lundi et du jeudi. Et oui, si par hasard vous ne pouvez pas venir à la réunion du jeudi soir, vous pouvez passer quand même vous présenter. Voilà, nous. On vous accueille.
Me contacter par mail.
voilà, bien sûr. Par mail, c'est très bien. Peut-être encore plus que le numéro de téléphone. Voilà, envoyer un mail aussi. Et voilà, on a une liste échange où on peut commencer à décider des choses, à communiquer entre membres actifs de l'équipe.
Très bien. Bon, eh bien, merci d'être venu à ce micro en tout cas.
Ben, merci à vous de nous avoir invités.
Et puis, ben, on ne manquera pas de vous inviter à l'occasion.
Ah ben, avec plaisir.
On apprécie.
Avec plaisir. Peut-être des sujets peut-être plus précis.
Ah ben, pourquoi pas. Bien
pourquoi
sûr.
Pas, ouais.
Bien sûr. On passe un brin de musique et puis on finira ces infos avec quelques autres brèves en national et international. That's still gonna be you. Every place you go, you can change your name and address. That's what a lot of people say. But the cards that they deal you are the ones you gotta play.
Get away.
juste avant cette pause musicale préparée par Antonin, notre maître à la technique ce soir. Je vous annonçais qu'on passait au national et j'ai oublié juste une petite chose, c'est d'aller faire un tour dans les Hautes-Alpes et pourtant je m'y suis échappé hier. En fait, il y avait un rassemblement assez important à Embrun puisque RTE, réseau de transport d'électricité, prévoit des travaux donc sur la vallée de la Haute-Durance entre Gap et Briançon et même jusqu'à Montier-les-Bains. Donc c'est des travaux pour refaire complètement le réseau de distribution d'électricité et les lignes à haute tension. Alors il y a des points positifs quand même sur ce dossier, il y en a d'autres qui sont très négatifs. En gros, je vais pas vous raconter tout dans le détail et puis je vous prépare une petite émission pour jeudi prochain qui sera diffusée à 17h là-dessus, donc là on aura le temps de développer les choses. Juste pour vous dire que l'idée c'est de refaire un réseau qui a été pensé en 1936. Que RTE défend son projet en disant que le réseau ne répond plus aux besoins du territoire, notamment besoins qui ont augmenté à cause du développement des sports d'hiver. Mais ça, ils oublient de nous le dire qu'a augmenté aussi à cause du chauffage électrique. Vous savez d'où il vient le chauffage électrique, hein, ça veut dire qu'il y a une centrale nucléaire derrière. Hein. C'est aussi comme ça que le nucléaire s'est développé en France. Bref, tout ça pour dire que les opposants, eux, disent que... Alors, chez les opposants, il y a l'association un peu historique qui, c'est des riverains qui, c'est des riverains, après ça s'est élargi un petit peu à d'autres gens, qui, quand ils ont appris que la ligne allait passer à côté de chez eux, se sont dit « Oulala, on ne veut pas de ce truc-là, donc on va se mobiliser ». Alors, eux, ils ont une association assez large, l'association Avenir Haute-Durance, où la revendication, c'est de dire « On veut bien que le réseau y soit refait ». Mais par contre, on veut tout que tout soit enterré. Parce que le problème d'avoir des lignes aériennes, ça pose des problèmes sanitaires au niveau des champs électromagnétiques et ça pose des problèmes de paysage et évidemment d'atteinte à l'environnement parce que construire une ligne aérienne, ça veut dire déforester, ça veut dire impacter des milieux de vie et aussi ça veut dire des câbles qui pendent dans le paysage et des pylônes qui sont dans ce paysage. Alors à ça, RTE répond qu'ils lancent tout un programme qu'ils appellent LIFE, biodiversité. Donc ils vont prendre des engagements sur la biodiversité. Ils ont étudié des pylônes qui s'intègrent dans le paysage avec une forme et une couleur comme il faut.
Ils sont déguisés en arbres en fait, les pylônes.
Ouais, enfin les pylônes sont quand même là et les milieux seront quand même impactés. Ça c'est ce qu'on pourrait appeler du greenwashing. Et ils sont très forts là-dedans RTE, dans le greenwashing, parce que hier... malgré le fait que les responsables d'RTE disent on fait cette réunion publique qui n'en était pas une d'ailleurs pour informer les Hautes-Alpins, il fallait venir sur invitation et les gens qui étaient là c'était surtout des entrepreneurs, des journalistes et un peu des officiels de l'administration. Il y avait aussi des responsables associatifs un petit peu. Voilà, mais c'était pas vraiment ouvert à tous les Hautes-Alpins. D'ailleurs, il y avait un cordon de CRS qui empêchait l'entrée des opposants devant, qui était à peu près 200, donc à crier contre cette ligne, à dire qu'ils n'en voulaient pas. Je vous ai parlé de l'association Avenir Haute-Durance, je vous ai pas parlé du collectif NoTHT05, qui là est un collectif qui s'est monté un peu plus récemment, au cours de l'année 2014, et qui se mobilise surtout... dans une idée en fait d'être sur une lutte contre des grands projets inutiles et imposés, en disant que on peut avoir un autre modèle, qu'il serait temps d'y penser, et surtout que le nucléaire ça suffit, parce que derrière ils pensent, et ils ont peut-être pas tort, que cette ligne elle servira à raccorder à terme vers l'Italie, les réseaux d'électricité, pour pouvoir vendre de l'électricité en Italie. Bon, on va quand même retenir les petits points positifs dans cette histoire pour essayer d'inviter RTE à aller vers du beaucoup plus positif. Ils enlèvent 200 km de lignes à haute tension aérienne et ils en reconstruisent 100 km. Et ils font aussi des lignes enfouies. Il faut voir que ça fait un gain de 100 km de lignes qui disparaissent aériennes, et notamment du côté des cols du Galibier et du Lautaret. Donc là, c'est vraiment en haute montagne. Ça, c'est quand même positif. Ça impactera beaucoup moins le paysage et la faune et la flore locale. Mais bon, ça reste maigre dans le bilan, quand même, sur le compte. Voilà, donc de tout ça, je vous en reparlerai jeudi à 17h dans le cadre de mon émission. Et puis, ben, je vous avais promis un entretien à propos du train et des collectifs qui se battent pour la sauvegarde du train dans les Hautes-Alpes. Mais vu que l'heure a bien avancé, on diffusera ça dans les prochaines infos, donc demain, dimanche ou lundi, toujours dans les infos de Zinzine. Donc ce sera à 19h. Voilà, on va passer à quelques autres brèves avec Damien sur des sujets tout à fait autres.
Ouais, tout à fait autre. Alors, d'abord une brève qui concerne le débat autour du cannabis en France et l'efficacité de la politique de répression qui semble être vraiment mise à mal par un dernier rapport qui a été rendu et qui concerne les questionnaires anonymes qui sont remplis par les jeunes lors des ce qui s'appelle les journées défense et citoyenneté, c'est-à-dire les journées de service militaire en fait que font les jeunes à 17 ans ou 18 ans avant leur majorité. Et donc ces questionnaires qui sont remplis et décortiqués ensuite abordent cette question du cannabis et les résultats qui ont été publiés ce mardi indiquent une forte augmentation de la consommation de cannabis chez les jeunes. Aujourd'hui, parmi les jeunes, parmi la population française, on est à 17 millions d'expérimentateurs. On est à 11% d'usagers, c'est-à-dire des gens qui en consomment de façon plus ou moins régulière chez les adultes, donc de 18 à 64 ans. Je répète, 11% de consommateurs occasionnels. Et là où c'est peut-être où ça peut être problématique, il y a aujourd'hui en France 700 000 personnes qui disent être usagers quotidiens du cannabis. Donc, sans entrer dans le débat sur la dangerosité du produit, il semble certain aujourd'hui que la politique répressive ne porte pas ses fruits. En attendant, toujours dans ce débat, il y a une journée mondiale, la marche mondiale du cannabis, qui va avoir lieu samedi 2 mai, et notamment un événement à Marseille. Donc les organisateurs invitent les Marseillais qu'ils souhaitent à se joindre à 15h sous l'ombrelle du Vieux-Port pour une marche jusqu'au Réformé. Et il y aura ensuite une soirée festive qui commencera à 17h au kiosque des Réformés avec un sound system. Et ensuite, de 19h jusqu'à 4h du mat, on n'est pas fatigué, jusqu'à 4h du mat, donc au Drop, qui se situe rue de l'Arc, une rue bien fleurie, donc à côté de la rue d'Aubagne, dont on parlait tout à l'heure. Et donc au Drop, il y aura une soirée jusque tard dans la nuit, avec essentiellement, il me semble, du reggae, dans le cadre de cette mobilisation pour la légalisation du cannabis.
On passe un brin de musique et comme ça on en profite pour dire au revoir à nos auditeurs qui nous écoutent ce dimanche matin pour la rediff puisque vous allez retrouver la matinale de Michael avec toujours du jazz. Enfin, je sais pas s'il nous a préparé ça. En tout cas, on en profite aussi pour saluer chaleureusement Michael. Et puis, si vous êtes encore avec nous à 20h et à 1h du matin, sachez qu'on va continuer encore un petit peu avec un dossier sur le nucléaire, puisqu'on commémore Tchernobyl, comme on vous l'a dit. Thank you. êtes toujours à l'écoute des informations, on lâche pas le morceau, hein. On a du mal à faire l'heure comme d'hab, toujours beaucoup de choses à dire. Et Damien, voilà, toujours beaucoup de choses à dire. Damien.
Ouais, pas mal de choses à dire.
Mais alors, ça faisait longtemps que t'étais pas venu à ce micro.
C'est pour ça, j'en avais en réserve, ça m'a manqué. Alors, un sujet là sur lequel, pour le coup, on aurait vraiment beaucoup à dire, sur le nucléaire et sur les développements actuels donc du sujet. D'abord, une info plutôt internationale. Un tribunal japonais a annoncé ce mercredi qu'il rejetait un recours qui avait été déposé par des citoyens anti-nucléaires. Et donc, le tribunal a estimé que les deux réacteurs du sud-ouest du Japon, Sendai 1 et 2, allaient pouvoir redémarrer. C'est les deux premiers réacteurs du Japon qui risquent d'être relancés depuis la catastrophe
de Fukushima
en 2011. Et donc il y avait une opposition populaire assez importante contre le redémarrage de ces réacteurs. Et il y avait un premier tribunal qui avait statué l'inverse, c'est-à-dire que les réacteurs ne pouvaient pas redémarrer, puisqu'il y avait un doute sur la sécurité antisismique des réacteurs. Et donc là, ce dernier jugement, lui, est définitif. Et donc officiellement... Ces deux réacteurs vont pouvoir redémarrer cet été. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle au Japon, les 48 réacteurs sont à l'arrêt et qu'il y en a 6 qui ont été saccagés par l'accident de 2011, dont les conséquences sont loin d'être terminées, quoi. On continue un petit peu, on va revenir en... Je vous parlerai tout à l'heure aussi d'un autre sujet international, mais on va parler maintenant de l'EPR, qui est donc le dernier né d'Areva. On vous avait parlé une fois d'ailleurs ici des énormes difficultés financières du groupe Areva, qui est vraiment au bord du dépôt de bilan, notamment à cause de ces difficultés autour de l'EPR. Donc EPR, je vais le dire cette fois-ci, comme ça on pourra utiliser l'acronyme, le réacteur pressurisé européen. Donc la dernière anomalie qui a été détectée la semaine dernière concernait une cuve du réacteur et va donc augmenter le coût du réacteur pour le faire passer à 9 millions d'euros. Et la fin du chantier est prévue pour 2018, sachant que lorsque le réacteur a commencé à être construit en 2007, le coût prévu était de 3,3 milliards, c'était ça le devis initial, et il devait être terminé en 2012. Donc le prix a triplé depuis le début du chantier, et la durée du chantier, qui devait être donc de 5 ans au départ, est passée à 11 ans. Et donc il a doublé aussi. Et là, ça c'est pour le moment. Parce que effectivement, c'est toujours pas fini. Donc petit historique, on est passé donc de 3,3 milliards d'euros en 2007 de budget à 4 milliards d'euros en 2008 et 2009. Là, on avait déjà retardé la date de livraison du chantier de 2012 à 2013. En 2010, on est passé à 5 milliards d'euros et on a prévu de finir le chantier en 2014 et 2015. En 2011, c'est passé à 6 millions d'euros et on est passé à une date de fin en 2016. 2012, 8,5 milliards d'euros, fin prévue du chantier 2016. Et là aujourd'hui en 2015, donc 9 milliards d'euros et fin prévue du chantier en 2018. Et on ne cesse de nous rabâcher que le nucléaire, c'est l'énergie la moins chère. Et heureusement qu'on a ça, parce que sinon, on s'éclairerait à la bougie. Alors, je sais pas, je peux pas vous dire le coût de l'EPR en 2016. Si on suit la courbe actuelle d'augmentation, bah, ça devrait être 10 milliards d'euros. Et fin prévue du chantier 2020, peut-être. Mais bon, ça, c'est vraiment une de mauvaise augure, en tout cas. Bref, il faut savoir que cette EPR... on le construit donc en France, notamment à Flamanville, mais pas seulement. C'est une des industries que la France exporte. Et on l'a exporté en Finlande, et le chantier n'est toujours pas terminé non plus, avec le même retard que l'EPR de Flamanville. On l'a exporté aussi en Chine. Alors là, pour le coup, l'EPR chinois sera probablement terminé avant l'EPR français. La raison, elle est toute simple, c'est grâce au retour d'expérience. Puisqu'il a été, le chantier a été démarré plus tard, ce chantier a pu bénéficier de toutes les conneries en fait, qui ont été faites en France. Et du coup, ça permet de ne pas les faire chez eux. Et du coup, il sera probablement terminé avant celui de Flamanville. Cet EPR, on l'a aussi vendu aux Indiens. Et justement, j'ai trouvé un article dans le Courrier international de cette semaine où ils interviewaient une collaboratrice indienne qui ils posaient des questions sur ce contrat. Et donc a expliqué que effectivement là-bas en Inde ça pose des questions et que comme les accords qui ont été passés ne sont pas totalement conclus, ils vont être renégociés. Donc ils vont être renégociés notamment sur le prix. Donc Areva va de nouveau perdre de l'argent là-dessus et en plus ça va remettre en cause le principe fondamental de pourquoi s'obstiner à acheter le nucléaire français alors que les Indiens ont des tas d'autres solutions, qu'elles soient américaines ou autres, pour s'équiper en nucléaire.
Pour rester dans le nucléaire, oui.
Ah oui, non, par contre, pour eux, il s'agit de rester dans le nucléaire. Mais l'Inde n'est pas, comme la France, n'a pas le même taux de nucléaire que la France. Je crois que la France est autour de 85%. L'Inde, ils en sont très loin. Ceci étant dit, même si l'opinion publique, comme en France, en Inde, n'est quasiment pas informé de ça et qu'il n'y a pas de débat public sur le sujet, il y a quand même eu une très forte opposition et de grosses manifestations contre le projet d'EPR en Inde. Ces manifestations ont été réprimées et magnifiquement ignorées par le gouvernement et l'administration, aussi bien l'ancienne que la nouvelle. L'actuel gouvernement indien continuera d'ignorer cette opposition et ces manifestations. Petit point, parce qu'Areva n'a pas seulement des problèmes avec l'EPR, il y a eu aussi, alors là c'est ma source, c'est le Canard enchaîné une nouvelle fois de cette semaine, il y a eu aussi un problème récent, donc le 15 mars, qui a été détecté le 15 mars sur beaucoup plus proche de chez nous sur le site du Tricastin où il y a donc une ancienne usine d'enrichissement d'uranium qu'on souhaitait dépolluer et donc on la dépollue en utilisant une saumure de l'eau qui va se mélanger donc aux produits chimiques notamment l'uranium et le trifluorure de chlore qui sont toxiques et extrêmement corrosifs. Et donc, il y a eu un problème d'étanchéité sur les citernes de stockage de cette eau polluée. Et c'est l'ASN, l'Agence de Sûreté Nucléaire, qui a alerté
Areva.
Qui a alerté Areva sur le site de Tricastin. Et probablement aussi les journaux, notamment le Canard Enchaîné.
Ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle Fukushima où l'eau radioactive.
Ah oui, ils ont beaucoup de problèmes avec les piscines.
Mais ils ont plus que des problèmes. En fait, ils peuvent pas stocker parce que ça représente des volumes énormes, tellement énormes que je m'en souviens plus. Mais ils peuvent pas tout stocker sur place de l'eau radioactive, donc ils sont obligés de la renvoyer dans le Pacifique, enfin pour une partie en tout cas. Sauf que le problème, c'est qu'ils ont l'eau, ils la stockent, mais ils savent pas comment la décontaminer en fait. L'eau, donc elle reste sur place et ouais, donc c'est une bombe à retardement, ça finira pas cette histoire. Mais pour revenir sur cette histoire de Tricastin dont tu nous parles, on en a parlé aussi la semaine dernière. Il faut savoir qu'il y a pas qu'un problème de radioactivité dans cette usine qui est démontée. Il y a des problèmes de plomb et d'amiante aussi. Donc ça arrange pas le problème, évidemment, loin de là. Mais tout ça pour dire aussi que souvent quand on parle de nucléaire, et tu disais Damien tout à l'heure, le nucléaire, on nous le vend comme l'énergie la moins chère. C'est totalement faux, parce que dans les comptes qui sont donnés publiquement. Alors,
oublie toujours le démantèlement. Ouais.
Exactement.
Toujours.
On oublie le démantèlement, le stockage des déchets, tout ça, le traitement, nanana. Ça, bizarrement, on ne le compte pas.
Et comme tu dirais, comme tu disais, le stockage des déchets, lui, il ne s'arrêtera jamais.
Bah oui.
Quand on est en train de construire le trou du cul du monde à Bure, on va laisser ça pas seulement à nos petits-enfants, mais sur 100 ou 200 générations. Nos déchets seront là bien plus longtemps que les humains seront là. Bref.
Mais malgré ça, eh ben, il paraît que c'est l'avenir.
En tout cas, sur cet article que je citais du Canard Enchaîné, ils expliquent très bien la façon dont l'administration de Tricastin enfume l'ASN, donc l'Agence de Sûreté Nucléaire, et la façon dont ils détournent les problèmes et dont ils se dédouanent de leurs responsabilités en mettant du baratin et en proposant de fausses solutions pour camoufler véritablement les problèmes. Donc on ne saurait trop vous conseiller d'acheter et de lire Le Canard Enchaîné.
C'en est fini pour le
nucléaire.
Alors
pour le dossier sur le nucléaire, on va s'arrêter là.
Malheureusement, ça n'est pas définitivement fini.
On n'arrêtera pas d'en parler, mais pour ce soir, je crois que ça sera bon là.
Ouais.
On a la dose.
Une dernière info que tu voulais nous donner avant de finir, Damien,
ouais.
À propos de l'Égypte et la chasse aux frères musulmans qui continue.
Ouais. Alors à propos de l'Égypte, c'est vraiment la douche froide là pour les révolutionnaires, puisque depuis le mouvement de 2011, si je ne dis
oui,
pas
2011,
de bêtises,
oui, c'est ça.
Ça va pas en s'arrangeant, et là il semble que réellement la contre-révolution soit en train de triompher. Et pour témoignage de cette réalité, il y avait par exemple cette semaine le premier procès de l'ex-président Mohamed Morsi, qui n'est pas forcément du camp des révolutionnaires, qui est plutôt du camp des frères musulmans, mais qui avait quand même été démocratiquement élu et puis ensuite renversé par un coup d'état militaire. Donc il a été jugé pour la première fois, il a pour cette fois échappé à la peine de mort, il a pris entre guillemets que 20 ans de prison. Ce dont on l'accuse, c'est d'avoir usé de la violence et fait arrêter et torturer des manifestants lors de la dispersion d'un rassemblement le 5 décembre 2012 devant le palais présidentiel du Caire. C'est un rassemblement qui avait été réprimé faisant au moins 10 morts. Pour comparer ce qui est comparable, il faut savoir que depuis juillet 2013, il y a plus de 1400 manifestants qui ont été tués et 15 000 jetés en prison. Ça, c'est les partisans de Mohamed Morsi qui ont été réprimés par le nouveau pouvoir qui l'accuse de faire usage de la violence. Donc voilà, ce pouvoir effectivement est soutenu par une partie des Égyptiens qui sont sans doute guidés par une certaine lassitude de l'instabilité et une peur d'un chaos plus grand, et qui du coup soutiennent l'homme de fer actuel. Mais cette chasse aux frères musulmans, chasse, faut vraiment dire ça, puisque ils ont été 183 à être condamnés à mort en février de façon collective, et encore ce lundi, une vingtaine, j'ai plus le chiffre, oui, 22 membres des frères musulmans qui ont encore été condamnés à mort lundi. Et cette chasse, elle prouve que le pouvoir politique actuel a encore plus, enfin, a plus peur des frères musulmans que des révolutionnaires qui avaient initié le mouvement de 2011. Et ça témoigne pour moi, avec regret, comme je disais, du triomphe total de la contre-révolution. On va rappeler aussi que la justice égyptienne a blanchi Moubarak depuis quelque temps, libéré ses deux fils, son ministère de l'Intérieur, qui était vraiment l'homme qui incarnait la dérive de l'État policier qui avait été tenté de renverser en 2011. mais qui est, je crois, aujourd'hui bel et bien de retour.
Oui, puis ce qu'il faut rappeler quand on parle de l'Égypte, c'est que souvent l'armée n'est jamais très loin des manettes du pouvoir, quelles que soient les périodes. Bon, en ce moment, c'est carrément l'armée qui est au pouvoir, avec le maréchal Al-Sissi et toute sa clique. Mais c'est peut-être ça aussi le problème. C'est qu'il ne se passe pas un fait politique en Égypte sans que l'armée n'y soit impliquée dedans. Voilà, je pense que c'est le mot de la fin. Je sais pas.
Désolé de vous laisser sur cette note peu positive, mais c'est comme ça, on est là pour commenter la réalité.
Ouais, mais si vous avez envie de vous remonter le moral, eh ben, demain, on vous rappelle, une grande journée pour planter des fleurs et des plantes dans la rue d'Aubagne, ça va être super, grande journée festive, donc on vous invite à y aller. Et puis évidemment, on vous invite à vous mettre en contact avec Milbabor aussi, si vous avez envie de donner un coup de main, de participer. Voilà.
Eh ben, on apprécie, oui.
Ouais. Très bien.
Venez aux réunions, venez aux permanences, voilà. Et vous présenter, voilà. Et présenter le livre, voilà.
Très bien.
Eh bien, on va clôturer cette émission donc en remerciant bien nos invités de Milbabor, en remerciant bien Antonin à la technique aussi, et merci à Pierrot et qui nous repassera son reportage qu'on n'a pas pu vous passer aujourd'hui prochainement.
Ben, merci à toi, dame, aussi. Et puis les infos depuis Marseille, c'est chaque samedi. Donc, à la semaine prochaine. Même heure, même lieu.
Non, pas même lieu, puisque la semaine prochaine...
Non, la semaine prochaine sera même lieu.
Ah si, autant pour moi.
Ce sera le 9 mai, ce sera les Marseillais sur la colline. Voilà. Allez, portez-vous bien, salut.
Ciao, bye.